France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et d'abord Israël qui vise toujours l'Iran sur le terrain syrien. L'armée israélienne a annoncé cette nuit qu'elle y menait des frappes contre la force des gardiens de la révolution. À Damas, l'agence de presse officielle Sanaa fait-elle état de riposte de défense, riposte de la défense anti-aérienne syrienne qui a visé cette nuit également plusieurs ennemis sans donner plus de précision. C'est l'une des attaques djihadistes les plus meurtrières contre l'ONU au Mali. 10 casques bleus tchadiens de la MINUSMA ont été tués hier matin dans le nord du pays, dans la région de Kidla. C'est à 200 km de la frontière algérienne. Au moins 25 autres soldats ont été blessés. Le calme règne ce matin à Kinshasa et dans le reste de la République démocratique du Congo, alors qu'hier la Cour constitutionnelle a proclamé officiellement les résultats de l'élection présidentielle. Félix Tshisekedi est élu président de RDC. Il a déjà reçu hier quelques félicitations de dirigeants africains. Une partie de la communauté internationale, rappelons-le, émet des doutes quant à ces résultats. En ce lundi 21 janvier, c'est une semaine cruciale qui s'ouvre pour Renault et pour Carlos Ghosn. Le conseil d'administration de Renault doit se prononcer sur le probable remplacement de Carlos Ghosn à la tête du groupe automobile. Un changement soutenu par le gouvernement français qui exclut par ailleurs toute fusion avec Nissan. En bref, encore plus de 150 chefs d'entreprise seront au château de Versailles aujourd'hui. Emmanuel Macron va les rencontrer pour les convaincre d'investir en France. Il s'agit du deuxième sommet de Choose France organisé par le chef de l'État. Des investissements sont attendus alors que les gilets jaunes restent mobilisés pour plus de pouvoir d'achat. Ce week-end, près de 80 000 personnes se sont encore rassemblées. Aujourd'hui, le grand débat national se poursuit sur Internet en plus des débats locaux. La plateforme est lancée.
France Culture et le cinéma Majestic Bastille à Paris présentent les séances France Culture. Rendez-vous demain à 20h avec Les Estivants de Valeria Bruni-Tedeschi. Une comédie dramatique avec Pierre Arditi, Noémie Lovski et Yolande Moreau.
Il arrive quand ton papa ?
Il viendra pas, il a une nouvelle fiancée.
Anna arrive avec sa fille sur la Côte d'Azur pour les vacances. Au milieu de sa famille, des amis et des employés, elle doit gérer sa rupture et l'écriture de son prochain film.
Vous savez, chacun fait sa vie dans cette maison. Personne ne voit personne.
Projection en avant-première, suivie d'un débat avec la réalisatrice animée par Antoine Guillot, en partenariat avec Combi. Plus d'infos et réservations sur le site lesecransdeparis.fr.
Il est 6h03 sur France Culture, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Moi je suis optimiste de père en fils. Non c'est vrai, je prends tout un peu cool, hein. La mort, le reste. Il n'y a que la politique qui a réussi à me foutre des boutons et en colère, mais sinon, je suis assez cool. Hein. Là, on vient de me piquer mon ordi. Là. J'ai piqué une crise. On dit, ah, oh, les fumiers, le salaud. C'est la troisième fois en plus. C'est ça qui me fout en colère. En plus, moi, je suis emmerdé parce que quand on me pique un truc, je ne veux même pas condamner les mecs qui me le piquent du fait que je les comprends un peu. Mais je suis quand même furax, quoi.
J'espère que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir reconnu la voix de Ciné. Bonjour. Ciné, bien sûr, c'est un extrait de ma dernière interview avec lui. C'était un 1er novembre 2013, à la veille de la fête des morts. Ciné nous a quittés en mai 2016, à l'âge de 88 ans. Il a eu le temps de vivre tous les grands moments du XXe siècle et de les raconter, de raconter sa vie d'anard de gauche, une vie d'anard de gauche toujours en verve. Hein. Il racontait ça en dessin et en écrivant à la main. Et l'intégrale des mémoires de Ciné sort en deux gros tomes grand format, réunis dans un beau coffret. Et c'est délicatement édité par mon invité du jour, Frédéric Pajac, des Cahiers dessinés. Bonjour Frédéric Pajac.
Bonjour.
Le Réveil culturel, c'est tous les jours de la semaine de 6h à 6h30 du matin à la radio, ou quand vous voulez, en passant par le podcast et l'écoute en différé, disponible sur iTunes, ou en passant par l'application de Radio France. À la réalisation, Vincent Abouchard, à la coordination, Corinne Amard, et ce matin, à la console technique, Julien Doumanc.
Le Réveil culturel. Lundi, livre.
Et cette semaine, les dessinateurs seront à l'honneur dans le réveil culturel à l'occasion du festival d'Angoulême qui commence en fin de semaine. Ouverture officielle de la 46e édition ce jeudi 24 janvier. Mais bon, ciné, la bande dessinée, c'était pas trop son truc.
Non, c'est un dessinateur d'humour au départ.
Oui, Frédéric Bajac.
Oui, c'est un dessinateur d'humour, mais c'est un dessinateur nouveau dans l'humour. C'est-à-dire que il y a une tradition du dessin d'humour en France qu'on peut dater du 19e, mais même un peu avant, avec Daumier et tous ces dessinateurs-là. Mais lui, il a un dessin très particulier qu'on n'avait jamais fait avant, parce que c'est un dessin assez simple, en fait, qui vient du dessinateur Saul Steinberg, enfin, qui s'est beaucoup inspiré du dessinateur Saul Steinberg, mais il s'en est aussi très vite détaché.
En disant que pour lui, il ne s'agissait pas d'être virtuose dans le dessin. Hein. Ce qu'il comptait, c'était qu'est-ce qu'on raconte ?
Oui, mais...
Mais il était modeste en disant ça, parce que quand même, les dessins de ciné, ils sont très bien. En
fait. Ils sont très bien parce que d'abord, il dessine à la plume, ce qu'on ne fait plus beaucoup, parce qu'on dessine beaucoup au stylo feutre. Et donc, il y a un trait, il y a un plein et délié, et il a quand même fait l'école Estienne. Donc il a une solide formation de dessinateur et de metteur en page aussi. Ce qui fait que, par exemple, dans ses mémoires que nous publions, la mise en page, puisque ce sont des textes manuscrits...
Écrits à la main. Et il rajoute des dessins, des photos...
Voilà. Mais enfin, il met en page ses,
oui,
il
met en scène
ses
sa page.
Dessins, etc. Donc il a... on sent chez lui l'ouvrier, l'homme de métier. On sent que il a de la facilité à composer des pages, ce que tout le monde ne saurait pas faire.
Frédéric Pajac, vous êtes vous-même dessinateur et écrivain, mais vous dirigez en tant qu'éditeur la collection Les Cahiers Dessinés, et c'est cette collection qui sort, qui a décidé de sortir donc les mémoires écrites à la main et agrémentées de dessins et de photos de ciné dans un coffret de deux beaux grands livres. Vous l'avez connu, ciné ?
Oui, je l'ai connu un petit peu à la fin de sa vie, et puis nous n'avons parlé que de dessins, à vrai dire, on n'a pas parlé de politique, et justement, on a parlé de Steinberg, on a parlé de Chaval, on a parlé des grands dessinateurs qu'il a
connus. Ah, vous êtes allé chez lui, à Montreuil.
Voilà.
Donc, vous avez vu tout ce qui était encadré.
Oui. Et puis, Et puis, en fait, on a parlé déjà de ses mémoires, qui s'appelaient pas Mémoires, qui s'appelaient Ma vie, mon œuvre, mon cul, qui était paru en fascicule d'abord, publié par Charlie Hebdo, puis publié par Ciné Mensuel. Ou Ciné Hebdo d'ailleurs. Et puis, en fait, il souhaitait les réunir. Il savait qu'il allait bientôt mourir, qu'il était malade, et il souhaitait vraiment réunir ses en un volume. Mais bon, en un volume, en réalité, c'est en un volume, mais c'est deux volumes dans un coffret. Mais c'est un seul volume. Ils sont arbitrairement partagé, parce qu'on pouvait pas faire un livre de 800 pages, le tenir à la main, c'est pas très agréable. Mais lui, il souhaitait que Les Cahiers Dessinés l'éditent et qu'il l'édite bien. C'est-à-dire, il voulait vraiment que ce soit une sorte de livre immortel. Et une des questions, c'était que dans les premières parutions en fascicule, les dessins étaient souvent noir-blanc ou accompagnés d'une seule couleur. Et puis, cette couleur était plus ou moins heureuse. Et lui, il souhaitait, au fond, tout mettre en couleur. Mais c'est un travail colossal qu'on a accompli d'ailleurs. Et c'est un de ses amis, un de ses proches, Thierry Feuillet, qui a fait cette mise en couleur, qui représente à peu près 2400 dessins à mettre en couleur. Et donc on a cette édition est effectivement une édition qui est selon ses voeux.
À partir de quel moment Ciné décide de raconter sa vie, d'écrire ses mémoires à sa manière ?
Alors je crois qu'il a commencé à publier le premier fascicule en 2002, donc il a dû mettre une année pour préparer ça, et il a dû travailler presque jusqu'à sa mort en fait, hein. Donc il a travaillé plus de 10 ans sur ses mémoires, qui étaient donc au départ en 9 fascicules, donc il en a fait un peu, peut-être pas un par un tous les
années. Ça couvre toute et demie. Sa vie.
Alors non, ça couvre pas toute sa vie, ça s'arrête en 68.
Et... Bah enfin, ceci dit, lui-même, il le disait, ou du moins, la Clavetine en prologue à cette belle réédition de ses mémoires, dit que à partir de 68, Ciné ne va pas connaître d'autres grands événements. Et pourtant, il était un observateur très attentif de ce qui se passait aussi bien en France que dans le monde.
Moi, j'ai l'impression qu'il est tout de même moins inspiré après, et moins concerné peut-être par le monde. genre de jeu. C'est vraiment, pour moi, hein, c'est subjectif, mais c'est un dessinateur de l'après-guerre. C'est un dessinateur d'abord qui a connu la guerre, enfant, et qu'il raconte très bien dans ses mémoires, mais c'est un dessinateur, au fond, qui est un novateur, qui arrive avec quelque chose, un humour tout à fait nouveau, qu'on va appeler l'humour noir, et qui va d'ailleurs recevoir en 58 le grand prix de l'humour noir, qui est tout à fait mérité. Et donc, il y a ce dessin excessif, mais en même temps très simple, avec ces personnages très simples, qui parlent à tout le monde, en fait, qui sont pas des dessins compliqués, qui sont pas des dessins m'as-tu vu, disons. C'est un dessin sobre, mais encore une fois, dessiné à la plume, très, très, très pertinent. C'est-à-dire toujours, voilà, c'est un coup dans une cible, chaque fois.
Raconte l'histoire du XXe siècle vue par Ciné. C'est le XXe siècle vu par Ciné que les mémoires que vous réunissez dans vos cahiers dessinés.
Oui, c'est une partie du XXe siècle, mais c'est une partie importante. Et c'est surtout cette après-guerre, enfin la guerre et l'après-guerre. C'est aussi un dessinateur qui vient d'un milieu populaire. Et ça, il n'oubliera jamais d'où il vient. C'est très important de comprendre Ciné, parce que toute cette truculence qu'il a, son langage...
ses engagements.
Oui, mais quand il écrit, il a un langage très, très fleuri, très argotique, mais c'est le langage de son milieu, c'est pas fabriqué. Et donc, pour répondre à votre question, il va traverser non seulement la Deuxième Guerre mondiale, mais il va surtout traverser la guerre d'Algérie. Et pour lui, la guerre d'Algérie, c'est vraiment son engagement. Et c'est peut-être la chose, c'est là où il s'est le plus exprimé politiquement. Et il était vraiment engagé dans un moment où tout le monde ne pouvait pas s'exprimer aussi librement que lui, c'est-à-dire n'osait pas s'exprimer aussi librement que lui. Il a eu la chance dès 62 d'avoir sa page dans l'Express, et donc il était régulièrement, on lui refusait des dessins, mais tout de même il a réussi à vraiment décrire ce qui se passait et puis s'indigner de tous les excès non seulement de la police française, mais après de l'OAS et tout ça. Donc il a c'est un engagement total qu'on peut ou pas partager, mais au fond, c'est vrai que c'est un témoignage, c'est un témoignage très, très rare, en fait, et surtout fait par un dessinateur, et un dessinateur qui écrit et qui sait écrire, et qui sait décrire toute cette période.
Et ce qui le différencie de ses amis Volinsky ou Cavana, par exemple, c'est qu'il n'arrêtait pas de voyager, hein, laissant tomber des affaires en cours, des journaux à peine créés pour aller à l'autre bout du monde, rencontrer quelques révolutionnaires ou juste pour changer d'air.
Oui. Et puis, chaque fois qu'il se rendait notamment au Brésil ou à Cuba, où il était beaucoup à Cuba, ce qui
ou en Algérie où il a vécu,
ou en Algérie où il a travaillé même.
Ouais.
Il a fait du graphisme pour la Sonatrach ou Sonat.
Absolument. Il aura inventé leur logo.
Oui. Il avait une formation à l'école Estienne. Il avait une formation de graphiste. Mais évidemment, il s'est, comme beaucoup de gens, très à gauche, il s'est enthousiasmé pour la révolution cubaine, et il a aussi déchanté quand même. Il est resté lucide. Il s'est enthousiasmé. Mais on peut pas dire qu'il soit resté borné dans un amour de Cuba immodéré.
Dès que j'ai trouvé l'idée ou pour dessiner, hop, je sors un disque ou j'écoute un disque, aucun problème. Toujours du jazz pratiquement.
de temps en temps, il y a une petite salsa ou un petit truc. C'est toujours les trucs qui dansent, enfin qui donnent envie de danser ou joyeux. C'est pas la musique classique, ça, j'y connais rien, j'en écoute pas, ça m'endort. Non, moi c'est Coltrane, Thelonious Monk, Mingus, tous les gens qui me donnent envie de danser. King Cole, Sinatra même, c'est pas toujours de très bonne qualité ce que j'écoute. Moi j'appelle ça, je les ai mis dans un truc qui s'appelle... ah oui, soupe. Il y en a un, c'est soupe.
I heard she sang a good song. I heard she had a style. And so I came to see her, to listen for a while. And there she was, this young girl, a stranger to my eyes, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt she found my letters and read each one aloud. I prayed that she would finish, but she just kept right on, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Killing Me Softly, ce n'est pas Frank Sinatra, c'est Perry Como. Et nous sommes avec Frédéric Pajac des Cahiers Dessinés, qui a publié donc en deux volumes, dans un coffret, les mémoires de Ciné. Ciné, qu'on vient d'entendre parler de la musique, parce qu'il aimait beaucoup la musique, Ciné.
Oui, c'était un grand connaisseur. Il avait des centaines et des centaines de disques de jazz et surtout de samba aussi. Donc il était, et d'ailleurs quand il est allé à Cuba, parce qu'on parlait de Cuba, évidemment, ce qu'il a retenu de Cuba, c'est moins la politique.
Oh, la salsa, bien oui, sûr. Oui. C'est quoi un bon dessin pour vous, Ciné? Je me souviens avoir posé cette question à plein de dessinateurs et j'étais très très surpris par la réponse de Ciné. Je vous rappelle que c'était en 2013 et c'était pour Un autre jour est possible, une interview que j'avais enregistrée chez lui.
Moi, le meilleur dessin que j'ai fait et celui dont je suis le plus fier et le plus content, c'est un truc que j'ai dû faire en 55 ou 60. C'est tous les prêtres autour d'un crucifix qui se foutent de la gueule d'un noir africain qui lui prie autour de son totem. Ils se moquent tous de lui sans se rendre compte qu'ils sont dans le même, à peu près la même situation et qu'ils aiment des amulettes, quoi.
C'est paru où?
Oh, ben d'abord, j'ai jamais pu le vendre au départ. Les gens trouvaient ça choquant. Il n'y avait pas de support pour ça. Maintenant, dès que j'ai fait Ciné Massacre, c'était en 63, en quittant l'Express, ben je l'ai fait. Je me le suis fait moi-même, en fait, comme j'étais directeur de la publication. J'en ai fait une double page et puis il a beaucoup plu à Malcolm X, qui à l'époque avait été en plein, à New York, on parlait beaucoup de lui. Comme on se connaissait, il m'a demandé la permission de le reproduire dans Mohammed Speaks, ça s'appelait, c'était le journal des Black Panthers, le Black Muslim, c'était pas Panther encore. Et le rédacteur en chef du journal a signé Mohamed Siné, parce qu'il tenait à ce que ce soit un musulman, comme ils étaient un peu comme ça à cheval sur les principes là-bas. Mohamed Siné, il m'a fait éclater derrière. Et puis finalement, ce dessin a fait le tour du monde. Petit à petit, il a été reproduit. J'en ai fait des cartes postales, j'en ai fait des cartes de vœux. Et puis les gens le trouvent bien. Et puis bon, et puis maintenant, c'est vrai qu'on a fait quand même des progrès sur la. On est plus cool sur les religions et surtout sur les cathos, quoi. Bon, on le ferait peut-être pas sur les autres religions, mais sur les cathos, on peut y aller. On peut y aller de plus en plus, quoi.
Ciné en novembre 2013, et au passage, et on peut d'ailleurs le constater en lisant ses mémoires dessinées, Frédéric Pajac, il a rencontré les plus grands leaders révolutionnaires du XXe siècle, ciné.
Mais oui, on le voit.
Et pas seulement Malcolm X. Hein.
Oui, on le voit avec Fidel Castro et puis tous les gens du FLN, évidemment. Mais je crois qu'il aimait bien. C'est une époque curieuse où au fond les genres se mêlaient. C'est-à-dire que ciné était en même temps avec des hommes politiques ou des leaders, enfin des hommes politiques révolutionnaire, hein, ou qui se disait révolutionnaire, mais il était en même temps aussi quelqu'un qui était proche des peintres et surtout des écrivains. Et il a connu beaucoup d'écrivains, notamment Jean Genet, avec qui il y a une correspondance dont on a reproduit dans l'édition des mémoires, on a reproduit certaines lettres en fac-similé.
Ouais, à la fin du deuxième volume, il y a quelques documents exceptionnels. Hein.
Oui. Il y a une lettre de Ionesco, il y a un mot de Queneau, Prévert et compte beaucoup, il est très ami avec Prévert. Il y a quand même, il y a Marcel Aimé, quand on est dans un monde de dessinateurs, c'est quelqu'un qui rencontre beaucoup de gens, il est très ami avec Léonore Fini, par exemple, et ce monde, il est ami avec ses éditeurs aussi, avec Jean-Jacques Pauvert, qui prend beaucoup de risques pour lui, puisqu'il édite finalement Cinémassacre, qui est quand même un journal. Faut quand même imaginer ce que c'est que de faire un journal tout seul en 1962 ou 63, en le distribuant avec des hommes sandwich dans les rues de Paris. Avec un grand dessin du général de Gaulle, la bouche ouverte, avec une bombe qui arrive dans sa bouche, c'est un dessin incroyable, je veux dire.
La Clavetine, dans sa belle introduction à ses mémoires que vous rééditez dans les cahiers dessinés, dit que c'est justement parce qu'il s'adressait à ce public qu'il a inventé son style, c'est-à-dire son style d'écrire à la main ses mémoires, ses textes, en mélangeant les dessins, les photos.
Mais son public. Son public est aussi un public très populaire. C'est pas seulement un public de. Justement, il mêle autant des intellectuels. Il était vraiment ami avec des intellectuels. Et puis il mêle des gens du peuple. D'ailleurs, si on regarde ses dessins, il y a une chose qui est très particulière dans ses dessins, c'est qu'il ne s'attaque jamais aux faibles. Il s'attaque toujours aux puissants. Et c'est vraiment, c'est pas le cas de tous les dessinateurs. Et c'est vraiment une règle de conduite qu'il a inconsciemment, disons, mais qu'il a tenue, quoi, toute sa vie.
Frédéric Pajac, diriez-vous que ciné a été à un moment donné dépassé par l'époque, par les événements, où il a compris le monde jusqu'au bout, puisqu'il a dessiné pratiquement jusqu'au dernier jour de sa vie?
Moi, je crois qu'il aimait pas tellement je l'ai dit tout à l'heure, mais il aimait pas tellement son époque, enfin l'époque moderne, les dernières années. Je crois que ça l'intéressait modérément. Je suis pas sûr qu'il était très à l'aise dans Charlie Hebdo. Bon, il a été licencié du journal de façon tout à fait arbitraire et ridicule, mais je crois pas qu'il était très à l'aise dans cette époque, sous l'époque Sarkozy, tout ça. Je crois pas que c'était son.
Pourtant, il se défendait bien, hein. Il les attaquait bien, il avait gardé intact sa verve.
Tout à fait, mais je suis pas sûr qu'il était à l'aise dans cette époque. Alors que je trouve, et on le voit bien dans ses mémoires, dans toute cette après-guerre, tout se mélange, parce que je parlais des intellectuels, des écrivains, etc., mais aussi les musiciens. La musique compte énormément, on en a parlé avec le jazz et tout ça, avec la salsa, la samba, toutes ces musiques. Tout se mélange dans une époque qui découvre, c'est l'après-guerre, on découvre quelque chose, c'est les Trente Glorieuses, il y a beaucoup de contradictions dans la société, il y a beaucoup de violence, tout ça, mais il y a une effervescence que, je dois dire, il n'y a pas aujourd'hui, il faut quand même l'avouer.
Vous voulez dire aussi qu'il n'y a pas d'héritier à cet esprit d'anard de gauche qu'incarnait Ciné durant la deuxième partie du XXe siècle?
Bon, il a eu évidemment des héritiers immédiats qui étaient Reiser, qui étaient Charlie Hebdo, en fait, Wolinski, ça viennent de Ciné, ça c'est une évidence, et beaucoup de dessinateurs, même après eux, viennent de Ciné, des dessinateurs comme Charb, tout ça, c'est des gens qui viennent de Ciné, ou Mix et Remix, il y a beaucoup de dessinateurs qui viennent de Ciné. Sauf que j'ai l'impression il n'y a plus un peuple derrière les dessins. Parce que chez Ciné, il y a un peuple derrière lui. Et moi, j'étais très frappé au moment où il a lancé Ciné Hebdo, à quel point c'était des gens vraiment du peuple qui aimaient ses dessins, quoi. C'est pas seulement des gauchisants ou tout ça. C'est beaucoup plus large que ça, parce que justement, on sent qu'il vient de là.
Alors, en relisant toutes ses mémoires, hein, puisque vous avez réuni tout ce qu'il a pu écrire sur une certaine période de sa vie, qu'est-ce qui vous a le plus mis mal à l'aise, Frédéric Pajac?
Alors moi, je suis pas toujours d'accord avec lui, évidemment.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Mais mal à l'aise, je suis pas mal à l'aise. Je suis pas d'accord avec certains de ses excès. Mais au fond,
par exemple, son amitié avec Jacques Vergès fait partie des excès.
Oui, il en est revenu. Ouais. Alors, disons tout ce qu'on pourrait lui reprocher de ce point de vue-là, il en est revenu et il s'en est expliqué. Donc voilà, moi je comprends l'engouement. Pendant la guerre d'Algérie, Jacques Vergès a un rôle à jouer qui était important. Il a défendu quand même des gens du FLN qu'il fallait défendre. Et donc, comme Ciné était vraiment du côté du FLN, bon, c'était logique. Après, je crois que les dérives du personnage Vergès lui ont déplu, quoi. Il s'en est séparé. C'est un peu comme Fidel Castro. On le voit en photo avec Fidel Castro, mais après, les excès de Fidel Castro, c'est comme avec Mao Tse-tung. En fait, dans ses mémoires, on voit son enthousiasme, il le cache pas, mais après, on voit aussi sa déconvenue, quand même.
Et c'est des illusions, ouais.
Oui, c'est des illusions, oui, tout à fait. Donc, moi, il n'y a rien qui me met mal à l'aise, parce que c'est très riche, ses mémoires, parce que c'est en même temps, c'est vrai que c'est politique, et on peut ne pas être d'accord avec lui, mais c'est pas si important que ça. Mais c'est aussi toute cette France de l'après-guerre qu'il décrit très bien, aussi l'occupation. Il a 11 ans quand l'occupation, quand débute l'occupation, et ça il est un jeune anti-nazi forcené. Et puis il y a tous ces émois sexuels, parce que alors, c'est très drôle, parce qu'il est vraiment c'est vraiment un dessinateur et un écrivain truculent, mais vraiment au sens strict, c'est-à-dire qui étonne par ses excès. Et il est excessif, mais il est en même temps aussi quelqu'un, il est l'auteur des Chats, et les Chats, c'est quand même c'est des millions d'exemplaires, donc ça a touché aussi un public extrêmement large. Et puis il y a chez lui cet amour des chats, des animaux, toutes ses mémoires regorgent de chats, et c'est le côté tendre c'est pas quelqu'un fait d'un bloc, c'est quelqu'un d'assez compliqué.
Et il se dessinait très bien, Ciné. L'intégrale de ses mémoires, donc, j'allais dire remasterisée, comme pour les films, mais retravaillée, sort en deux gros tomes grand format, dans un très beau coffret, édité par Les Cahiers des Ciné. Donc, votre édition, Frédéric Pajac, merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci à vous.
L'esprit d'ouverture.
10 minutes par semaine pour comprendre un échec. Guillaume Herner.
Super Fail, le magazine de l'erreur, parce que l'on a toujours au moins une bonne raison de se planter. Un échec analysé chaque semaine. Super Fail, c'est à podcaster tous les lundis, sauf si ça plante.
Super Fail, Guillaume Herner, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr. Un autre regard sur l'actualité, chaque jour à 18h20, du grain à moudre, Hervé Gardette.
En Italie, en Hongrie, aux États-Unis, au Brésil, les populistes sont aux commandes. Leur façon d'exercer le pouvoir inquiète, mais qu'en est-il de leurs politiques économiques? Les gouvernements populistes font-ils du bien à l'économie? On en débat ce lundi dans Du grain à moudre sur France Culture.
Du grain à moudre, ce lundi à 18h20 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. www.granddebat.fr. Les contributions au débat national sont possibles dès ce matin sur Internet. Une alternative aux réunions publiques qui exclut tout de même 500 000 personnes à cause de la fracture numérique, vous l'entendrez. Nous interrogerons aussi sur le refus de certains gilets jaunes de participer à cette proposition gouvernementale. Nous interrogerons un spécialiste du numérique. Dans cette édition, nous reviendrons sur le scandale Spanghero, du nom de cette entreprise qui avait fait passer de la viande de cheval pour du bœuf, c'était il y a presque 6 ans. Et puis nous irons en Irlande où une voiture piégée ce week-end fait de nouveau planer le spectre de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Elle vient compléter les réunions qui sont organisées un peu partout en France. Depuis ce matin, une plateforme sur Internet est accessible. Idées, doléances, le gouvernement interroge pour trouver une solution à la crise des gilets jaunes. Les citoyens, si les gilets jaunes ou non, peuvent s'exprimer sur 4 thèmes. Transition écologique, fiscalité et dépenses publiques, démocratie et citoyenneté, ainsi que sur l'organisation de l'État et des services publics. Un débat sur Internet, donc, qui ne sera pas accessible à tous, comme l'a constaté Jean-Pierre Pluvy dans la montagne ardéchoise.
Roger habite Lachan-Raphaël, 62 habitants sur le plateau ardéchois. Il ne compte pas sur le grand débat pour résoudre ses problèmes du quotidien, du travail ou de meilleure route. Mais il constate que s'il voulait contribuer sur le site legranddebat.fr, eh bien, il ne pourrait pas.
Ah ben c'est pas possible parce que je n'ai pas d'internet. Si j'aurais voulu dire quelque chose, mais c'est impossible, je ne peux pas. Il y a des choses à dire, bien sûr.
Isabelle de Sagny-Goudoulet ne peut plus se connecter. Pourtant, elle a bien des propositions à faire.
Moi, je descends à Aubenas tel jour pour faire mes courses. Je peux très bien emmener quelqu'un qui a un rendez-vous chez un toubib, mais il faut quelque chose qui centralise un peu toutes les demandes et qui ne soit pas accessible que par internet, forcément. Puisque tout le monde ne l'a pas.
Le maire de Lachan-Raphaël voit surtout un grand décalage entre le tout numérique et la réalité de son village. Dominique Alix.
Nous avons des choses qui sont tellement concrètes et tellement pragmatiques que ce n'est pas le grand débat qui va nous résoudre. Aujourd'hui, j'ai une partie des habitants de la commune de Lachan-Raphaël qui ne sont pas desservis par le téléphone fixe. C'est quand même hallucinant. Voilà où on en est. Et je ne suis pas sûr que ce soit le grand débat qui va nous résoudre ce problème-là.
La fibre optique devrait réduire la fracture numérique, mais ce ne sera pas avant 2025.
Jean-Pierre Pluvy de France Bleu Drôme Ardèche pour France Culture. La semaine dernière, le défenseur des droits estimait ainsi que 500 000 Français n'ont pas accès à Internet aujourd'hui. Voilà pour le débat qui se matérialise aussi par des réunions publiques. Une 20aine de débats locaux ont été recensés ce week-end sur le site granddebat.fr. Une 15aine de réunions au moins est prévue aujourd'hui à Roubaix, Quiberon, Clermont-Ferrand ou Strasbourg. Y voit-on, y verra-t-on des gilets jaunes? Pas systématiquement, car certains refusent ce débat. Ils étaient encore ce samedi dans les rues, 84 000 à manifester. Pour Olivier Tesquet, journaliste spécialiste du numérique, ces manifestants-là refusent un certain formalisme parce qu'il a parfois été fatal à d'autres mouvements populaires.
Si on prend un exemple assez récent, Nuit debout, et puis le mouvement des places, hein, ça pouvait être en Espagne, ou ça pouvait être le mouvement Occupy, et un peu plus longtemps aux États-Unis, c'est des mouvements qui se sont toujours accompagnés de délibérations en ligne assez importantes, mais c'est des mouvements qui sont souvent morts de leur formalisme. Enfin, il fallait maîtriser tout un tas de paramètres qui permettaient de prendre la parole. Et ensuite, il y avait un vrai problème de hiérarchisation de tous ces avis, de toutes ces idées qui germaient un peu partout. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gilets jaunes aussi, aujourd'hui qui sont un peu paralysés ou très méfiants vis-à-vis de cette initiative en se disant qu'on va les déposséder quelque part de cette plateforme de délibération qu'ils ont depuis le début et qui est Facebook en l'occurrence. C'est-à-dire que pour eux, le grand débat, ça se passe sur les groupes de gilets jaunes où chacun vient donner son avis, où c'est parfois un peu cacophonique, mais où en tout cas ils ont l'impression pour le coup de faire vraiment corps. Sauf que sur les groupes Facebook, il y a une modération évidemment, il y a des administrateurs de pages, on les voit d'ailleurs, c'est un peu ceux qui peuvent être les personnalités chez les gilets jaunes, les Éric Drouet, les Maxime Nicole, etc. Là, les règles du jeu, elles sont édictées par le gouvernement, il y a les garants du débat. Donc effectivement, on repasse finalement sur un mode de délibération beaucoup plus classique, même s'il est habillé comme ça, de cette espèce d'aura très moderne. Et le défi, ça va être de réussir à le faire rentrer dans ces règles qui sont beaucoup plus strictes.
Des propos recueillis par Ilan Malka. Un sommet économique à Versailles pour Emmanuel Macron ce lundi. Le président de la République invite plus de 150 grands patrons du monde entier. Il a déjà annoncé qu'il n'irait pas demain au sommet économique de Davos en Suisse. Et c'est donc sous les dorures du Roi Soleil au château de Versailles qu'il va dîner avec les patrons de Microsoft, Toyota ou encore HSBC. Nouvelle audition aujourd'hui devant le Sénat pour Alexandre Benalla. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron est attendu à 14h devant la commission d'enquête. Cette fois, il va devoir s'expliquer sur l'utilisation des passeports diplomatiques après avoir été démis de ses fonctions. Alexandre Benalla a déjà été mis en examen à ce propos ce week-end. Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux évoquait hier des dysfonctionnements insupportables mis en lumière par cette affaire. Cette affaire-là remonte à 2013 et avait dévoilé un vaste scandale sanitaire. De la viande de cheval en lieu et place du bœuf dans des lasagnes et autres produits. Aujourd'hui, deux anciens dirigeants de l'entreprise Spanghero de Castelnaudary et deux négociants néerlandais vont comparaître à Paris devant le tribunal correctionnel. Ils sont jugés pour tromperie sur la marchandise et escroquerie en bande organisée. Retour sur les faits avec Florence Turm.
Le scandale débute au Royaume-Uni en janvier 2013 quand les autorités sanitaires anglaises et irlandaises découvrent que des steaks hachés certifiés pur bœuf contiennent en réalité de la viande de cheval. Scandale qui s'étend rapidement à l'échelle européenne. En France, la société Comigel, qui sous-traite la fabrication de lasagnes et autres produits surgelés à plusieurs enseignes comme Findus ou Picard, s'interroge sur la provenance de la viande qu'elle transforme. Tavola, l'une de ses filiales luxembourgeoises, s'approvisionne auprès d'un abattoir roumain et c'est une société française, Spanghero, basé à Castelnaudary dans l'Aude, qui s'avère être le principal fournisseur de Tavola. Les tests vétérinaires démontrent la présence de viande de cheval dans les lasagnes. Au total, près de 550 tonnes de viande livrées à Tavola en l'espace d'une année, transformées en produits cuisinés et distribuées dans une douzaine de pays européens. Les deux principaux dirigeants de la société Spanghero sont soupçonnés d'être au cœur d'une escroquerie organisée en lien avec deux négociants néerlandais. Au cours de l'instruction, les enquêteurs découvre un système d'étiquetage frauduleux. Non seulement la viande ne porte pas la mention du pays d'origine, la Roumanie, mais les étiquettes laissent croire qu'elle a été transformée dans les ateliers de Spanghero et présente les produits comme des avants de bœuf désossés alors qu'il s'agit de cheval, au demeurant 30% moins cher sur le marché mais revendu au prix fort. En arrivant à Castelnaudary, le directeur Jacques Poujol avait informé les actionnaires de son intention de changer sa stratégie commerciale pour compenser les pertes de l'entreprise en mettant l'accent sur les achats.
Theresa May retourne devant le Parlement britannique ce lundi. Après une cinglante défaite la semaine dernière sur son projet d'accord sur le Brexit, elle doit présenter un plan B aux députés aujourd'hui. Selon le Sunday Times ce matin, la première ministre envisagerait de proposer un traité bilatéral à l'Irlande pour surmonter l'un des principaux points de blocage sur l'accord. L'Irlande et l'Irlande du Nord, où deux hommes ont été arrêtés après l'explosion d'une voiture piégée samedi à Londonderry. L'incident n'a pas fait victime, mais il rappelle de très mauvais souvenirs aux habitants de cette ville qui ont beaucoup souffert pendant la période des troubles, affrontements entre unionistes et républicains, des incidents qui avaient pris fin en grande partie grâce aux accords de paix du Vendredi Saint. L'explosion de samedi pourrait avoir un lien avec ce conflit, Marina Daras.
Les enquêteurs attribuent cette attaque à la Nouvelle IRA, une branche dissidente de l'armée républicaine irlandaise, un groupe relativement petit mais néanmoins déterminé à semer la panique. Connu sous le nom de la vraie IRA jusqu'en 2012, ce groupe paramilitaire de républicains dissidents veut réunifier l'Irlande. Les deux suspects arrêtés dimanche matin en font partie. Âgés d'une vingtaine d'années et munis d'armes à feu, ils auraient volé le véhicule à un chauffeur-livreur avant d'y placer une bombe et de l'abandonner devant le palais de justice. Alors que la police continue son enquête, les responsables politiques ont très vite dénoncé un acte de terreur. L'ancienne dirigeante de la province, Arlene Foster, leader du DUP, parti ultra-conservateur nord-irlandais, ainsi que le ministre des Affaires étrangères de la République d'Irlande, ont tous deux condamné cet acte terroriste ignoble et inutile. Alors que l'Irlande du Nord n'a toujours pas retrouvé de gouvernement depuis la chute de sa coalition en janvier 2017, le Brexit menace de réinstaurer une frontière physique entre les deux Irlandes, une frontière dure qui pourrait fortement fragiliser fragiliser l'accord de paix de 1998 qui a mis fin aux violences entre protestants et catholiques nationalistes irlandais.
La peur de l'IRA et d'un passé qui ressurgit, nous y reviendrons lors de la revue de presse internationale. Ce sera à 7h35 sur France Culture. Israël indique avoir ciblé des positions iraniennes en Syrie cette nuit. Un peu plus tôt, son armée aurait intercepté une roquette visant son sol et lancée depuis le territoire syrien. Israël riposte donc en visant des positions iraniennes sans préciser le nombre de tirs. En bref, encore une lune rouge qui n'est pas éclairée par le soleil le temps d'un instant, mais par la Terre. Une éclipse totale de lune a lieu en ce moment, visible depuis l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Pendant quelques secondes, le soleil, la Terre et la lune sont parfaitement alignés. La lune qui va disparaître ce matin pour laisser place à un grand soleil, de belles éclaircies, excepté sur les Pyrénées et le Massif central avec quelques nuages aujourd'hui. Il fait moins 7 degrés à Briançon ce matin, moins 3 à Strasbourg, moins 2 à Paris. Comptez 2 degrés à Bordeaux et Lyon, 7 près de la Méditerranée. 6h40, nous vous retrouvons. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal. Bon. Et je dois vous dire que je l'ai vue, la lune.
Vous l'avez vue toute rouge.
Oui, oui.
Elle est visible effectivement partout en France, oui. En ce moment, pour les lève-tôt, les couches-tard, s'il n'y a pas trop de nuages, ce qui est le cas en ce moment, au-dessus de nos têtes à Paris. Alors Jacques, on évoque avec vous les gilets jaunes dans votre journal des idées, une revanche des invisibles, dit-on souvent, et pourtant, les sciences sociales s'intéressent depuis longtemps à la désagrégation des couches populaires et à ce processus d'effacement.
Mais oui Clara, et c'est à se demander si ce ne sont pas plutôt ces travaux qui, en temps normal, restent invisibles aux yeux de la majorité des grands médias et des politiques. Dernier exemple en date, les enquêtes publiées sous le titre « Où va la France populaire ?» dans un ouvrage collectif dirigé par Nicolas Duvoux et Cédric Lombat, écrit bien avant la crise des Gilets jaunes. Il éclaire pourtant un large pan de la réalité dévoilée au grand jour par ce mouvement. C'est ce que montrent les sociologues dans un entretien accordé au Figaro Vox. Ils évoquent des études de cas avec immersion très longue pour comprendre de l'intérieur les différents domaines de la vie des classes populaires et insistent sur les logiques de différenciation observées. Si elles ont en commun des revenus modestes, une position subalterne dans l'emploi et une certaine séparation culturelle vis-à-vis des autres groupes, les classes populaires connaissent une fragmentation qui participe à leur invisibilisation. Un processus enclenché de longue date et contre lequel les gilets jaunes opèrent un renversement indéniable. Contrairement à l'époque où le monde ouvrier présentait une image unifiée, notamment à travers une culture commune et par le travail des organisations syndicales et partisanes, on rencontre peu aujourd'hui dans l'espace public de tentatives d'agrégation des intérêts de ces fractions de classe dans un discours commun. Les sociologues évoquent un chapitre de l'ouvrage, l'enquête de Carlotta Benvenu et David Gaborio sur les ouvriers de la logistique, un secteur qui représente aujourd'hui plus de 10% des ouvriers. Ceux-ci sont confrontés à de nouvelles contraintes, la quasi-absence de possibilités de carrière dans les entrepôts rend difficile l'identification à un métier et plus encore un collectif de travail. Leurs parcours divers, certains provenant de secteurs industriels restructurés, d'autres ayant suivi des formations professionnelles spécialisées en logistique, augmentent la fragmentation de ce groupe qui peine à faire émerger une voie commune et à porter des revendications partagées. Les activités en entrepôt, trop pénibles pour être durables, structurent aujourd'hui la condition des classes populaires et leur trajectoire. Sociologie du travail, de la famille, des banlieues ou de la ruralité, les chercheurs sont depuis belle lurette sur le terrain de la désaffiliation et de l'insécurité sociale. Aujourd'hui, un géographe, Christophe Guilluy, a imposé en guise d'explication unique et sommaire à la fracture sociale la notion de France périphérique, notion ressassée à raison même de son ambiguïté et de son côté passe-partout. Les géographes travaillent volontiers avec Descartes. Après la victoire surprise de Trump et la défaite de Marine Le Pen, ils ont comparé les cartes des zones démunies et défavorisées et celles des bastions des candidats populistes et ils ont découvert d'importants recoupements, observe le politologue allemand Klaus Leggevi dans un article relayé par Courrier International. Les Trump, Le Pen et autres Gauland, le co-dirigeant de l'AFD, le parti d'extrême droite allemand, l'emporte là où les entreprises sont parties, les médecins ont fermé leurs cabinets, les connexions ferroviaires ne sont plus assurées, les restaurants et les centres d'animation pour la jeunesse ont mis la clé sous la porte. Mais le tableau change quand on le contemple en contre-plongée. Les partisans de Trump proviennent principalement des classes moyennes. Parmi les rebelles, on trouve moins de représentants des classes ouvrières précaires que de gens ayant des revenus légèrement supérieurs à la moyenne et dont les angoisses existentielles ont d'autres causes qu'une paupérisation exacerbée. Par ailleurs, ajoute-t-il à propos de l'Allemagne, dans les régions démunies à côté de communes qui échouent désespérément en dépit des aides de l'État, on en trouve qui prospèrent, même sans subvention. Là, il y a de nouveau des crèches, des commerces et des transports en commun, et ce notamment grâce à l'arrivée de familles de réfugiés qui ont besoin de ces services ou qui y travaillent, mais aussi et surtout grâce à l'engagement de bénévoles, de maires, d'administrateurs et d'enseignants débordant d'idées qui s'opposent à la prétendue dictature de la géographie. Le corps est là de l'invisibilité supposée des classes populaires, c'est leur accès problématique à la parole publique. Dans Marianne, Philippe-Joseph Salazar, titulaire de la chaire de rhétorique à la faculté de droit du Cap en Afrique du Sud, estime que le grand débat national est en réalité un sous-produit du dialogue social qui lui-même est une technique de management et de résolution interne des conflits. Et il met en garde les gilets jaunes, leur pouvoir est justement dans une parole différente. Vous écoutez France Culture, il est 6h45 et c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous, Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Aujourd'hui nous partons en Colombie.
Et oui, après l'attentat, on apprend il y a quelques minutes que l'armée de libération nationale vient de reconnaître sa responsabilité dans l'attentat contre une école de police qui a tué 20 élèves policiers et blessé 68 autres à Bogota. L'ALN, ou plutôt l'ELN en espagnol, dernière guérilla en négociation avec le gouvernement. Le président Iván Duque a suspendu les pourparlers de paix. C'est peut-être la fin du processus historique initié avec les FARC. On en parle avec vous, Gaspard Estrada. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes directeur exécutif de l'OPALC, l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po. Alors pour beaucoup, les négociations de paix sont désormais enterrées. Je rappelle juste les faits. L'explosion d'une voiture piégée entrée de force dans l'école de police avec 80 kilos d'explosifs à bord et un artificier de l'ELN. Et puis là, donc je disais, on l'apprend, 3 jours pour obtenir une revendication de l'ELN. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous ?
Bon, je pense que cela est propre à ce groupe armé. Moi, je pense que de manière plus générale, ce à quoi on assiste, c'est finalement à la fin de ce cycle politique de négociation entre les guérillas et le gouvernement colombien, un cycle qui s'était ouvert en 2010 lorsque Juan Manuel Santos était arrivé au pouvoir. Et là, très clairement, il n'y a plus de volonté de la part de l'actuel gouvernement du président Duque, et on le voit aussi de la part des guérillas, puisque en commettant cet acte de guerre, eh bien, il y a très clairement une volonté de mettre fin à ces processus.
Ouais. Acte de guerre, vous l'avez dit, hein, c'est ce que dit le communiqué, un acte licite dans le cadre du droit de la guerre. La guérilla dit qu'elle n'a tué que des soldats. Alors, peut-être un mot sur cette guérilla ELN comparativement aux FARC. On dit que c'est la première guérilla colombienne fondée en 64. Elle est guévariste, un peu christique, mais on l'a dit aussi plus petite et mieux implantée que les FARC socialement ?
Alors, elle est en effet plus petite, elle est mieux implantée, mais elle a aussi, procédé aux mêmes dérives que les FARC, puisqu'elle s'est aussi associée au crime organisé. Et donc, de ce point de vue-là, cette dérive vers le crime organisé, le narcotrafic, a suivi le même tournant que les FARC. Et c'est pour cela qu'elle est aussi critiquée telle que les FARC.
Et alors, avant qu'on entre dans le processus de négociation proprement dit, juste un mot sur l'auteur aussi de l'attentat, donc qui s'appelle José Aldemar Rojas Rodriguez. On dit que c'est un artificier important pour l'organisation, mais qu'il est aussi lié à une branche qui s'appelle le Front Domingo Lane, qui avait été créé par scission lors des premières négociations de paix il y a longtemps, en 84. Est-ce que ça veut dire qu'on aurait affaire à une branche, disons, radicale de l'ELN, même s'il y a revendication du haut commandement aujourd'hui?
Bon, ce que je pense, c'est qu'il y a un problème de ligne politique, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la tête de l'ELN qui est actuellement à Cuba et qui souhaiterait maintenir ce dialogue et très clairement, il y a une autre branche de cette guérilla qui, en tant que le cycle politique des négociations est clos, ce n'est pas d'ailleurs la première fois qu'il y a des négociations de paix entre le gouvernement colombien et l'ELN. Malheureusement, elles se sont soldées par un échec. Et je pense que cet attentat est lié justement à cette division.
Ouais. Et alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer la dégradation, on pourrait dire assez rapide quand même, de la situation, puisqu'en août 2018, quasiment 2 ans après le début des négociations, il y avait quand même de bons espoirs, un optimisme du côté du chef des négociateurs de l'ELN à Cuba, Pablo Beltrán, qui disait qu'on avait avancé sur la voie de 80% de l'accord, et puis des tensions depuis. Qu'est-ce qui s'est passé?
Moi, je pense qu'il s'est passé, l'élément central, c'est qu'il y a eu l'élection de Iván Duque à la présidence de la République. Je pense que l'ELN souhaitait, en tout cas la partie politique qui était basée à Cuba, souhaitait conclure, arriver à un accord, et c'est pour cela qu'il y avait ce genre de déclaration, et très clairement, à la suite de l'élection d'Iván Duque, cet accord de paix était pour le moins compromis. Et là, on a l'exemple avec cet attentat, que ces négociations sont plus que compromises aujourd'hui.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des signes de la part du gouvernement et d'Iván Duque qu'effectivement ils allaient durcir le ton? Il y a eu des propos assez durs hein, contre le chef de la guérilla ELN quand on a su qu'il était à Cuba. Iván Duque a demandé son arrestation. L'ELN avait parlé de mesures inamicales. Ça veut dire lui qui avait promis de ne pas rompre le processus de paix, ça veut dire qu'il a créé trop de pression sur l'ELN?
Je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le processus de paix avec l'ELN a commencé bien plus tard que le processus de paix avec les FARC, plus de 7 ans plus tard. Et donc, de ce point de vue-là, les conditions politiques pour que ce dialogue arrive à un terme étaient beaucoup plus compliquées, puisque M. Santos, qui était donc le président à l'époque, était dans une position politique bien plus fragile. C'était après la victoire du non au référendum par rapport au processus de paix avec les FARC en fin 2016. Et donc, de ce point de vue-là, il y a eu une course contre la montre de la part du gouvernement Santos et de l'ELN pour arriver à un accord. Et il me semble que cette séquence-là est désormais terminée.
Oui, alors encore une fois, qu'est-ce qui a fragilisé ces négociations? Est-ce que c'est seulement Duque, ses déclarations, sa réputation, puisqu'il vient du Centre démocratique, qui est en fait la droite dure, hein, uribiste, ou alors ses déclarations parce qu'il voulait des corrections à l'accord des FARC d'une part, et qui posait des conditions importantes pour négocier avec le LN, notamment la libération des otages préalables, 17 apparemment?
Oui, très clairement, M. Duque a musclé le ton, a durci ses positions. Cela étant dit, je pense que à partir du moment où il était élu sur une plateforme qui justement visait à rompre avec ses initiatives de M. Santos, même si il essayait de d'être assez équilibré dans ses propos lors de sa campagne électorale. Très clairement, il voulait rompre avec l'héritage de Santos, et donc de ce point de vue-là, je pense qu'il aurait été très difficile qu'il y ait une résolution de cet accord de manière positive sous un gouvernement Duque.
Et avec des déclarations, vous voulez dire, peut-être plus consensuelles que les actes mêmes. Et quand même, c'est vrai que le gouvernement a, de manière répétée, quand même accusé l'ELN ces derniers temps de remettre la pression, si je puis le dire ainsi, notamment le 4 janvier, où elle l'accusait d'avoir rompu la trêve qu'elle décrète traditionnellement. Et puis là, on voit que le ministre de la Défense, Guillermo Botero, parle d'une attaque planifiée depuis plus de 10 mois. Ça veut dire que l'ELN est en campagne, clairement, désormais?
Ah, très clairement. D'ailleurs, le gouvernement colombien a annoncé hier le fait qu'il avait déjoué un autre attentat terroriste dans une zone frontalière avec le Venezuela. Il y a eu un oléoduc qui a été saboté tout récemment également en Colombie. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que le LN est manifestement passé à autre chose.
Et qu'est-ce qui pourrait ramener le LN à la table ou infléchir la position du gouvernement colombien, notamment ce gouvernement qui a évincé le Venezuela comme garant des négociations? Là, on voit que Cuba insiste notamment sur les protocoles de paix qui réclament un pays médiateur. Ça peut être une solution dans cette situation?
Alors, dans l'immédiat, oui, puisque la position cubaine est compliquée, compte tenu justement de son statut de pays garant. Or, une des parties, plutôt deux, aujourd'hui ne veulent plus de ces accords de paix, donc cela pose le gouvernement cubain dans une situation difficile. Néanmoins, aujourd'hui, je vois mal, compte tenu de la dynamique politique des événements, de la volonté très claire du gouvernement colombien de mettre fin à cet accord, comment on pourra rétablir, renouer le fil du dialogue.
Ça veut dire que pour les prochains mois, voire les prochaines années, la Colombie va retourner dans ce conflit qui a déjà fait 260 000 morts, selon vous, un risque de conflit plus fort. On voit d'ailleurs une résurgence des paramilitaires, des meurtres de militants des droits de l'homme, que ce soit lié à l'ELN ou pas, hein, finalement.
Ça, c'est, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Depuis l'élection de Iván Duque, il y a une augmentation très nette des assassinats de syndicalistes, de militants des droits de l'homme, d'activistes politiques. Cela étant dit, la situation sécuritaire de la Colombie aujourd'hui par rapport à ce qui existait il y a 10 ou 15 ans est très différente. Aujourd'hui, l'État colombien a véritablement le contrôle du territoire et donc de ce point de vue-là, je pense que les conditions militaires sont très différentes.
Eh bien, écoutez, c'est dit et merci pour vos explications aujourd'hui. Gaspar Estrada, directeur exécutif de l'OPALC. Merci, bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente L'Ordre des médecins, un film de David Roux.
Oui, papa, elle est où là?
Simon est médecin aguerri. L'hôpital, c'est sa vie.
Mais n'importe quoi, SOS médecin. Non, tu l'amènes ici.
Mais quand sa mère est hospitalisée dans une unité voisine de la sienne, l'univers de Simon, ses certitudes et ses convictions vacillent. L'Ordre des médecins, avec Jérémy Renier, Marthe Keller et Zita Enro, mercredi 23 janvier au cinéma.
Pourquoi t'as voulu absolument que je fasse médecine?
C'est un beau métier, non?
Un film France Culture.
Un ami, c'est quelqu'un de fidèle.
Voir le monde, au plus près, chaque jour à 17h, LSD, la série documentaire. Perrine Carvran.
Amitié d'enfance, amis imaginaires, duos éternels, amis disparus ou bande de copains. Cette semaine, LSD cherche à se faire des amis et explore ce lien indispensable et mystérieux qui se situe quelque part entre l'amour et la fraternité.
Un ami, ça sert à faire confiance.
Un ami, ça sert à t'épauler dès que t'es tout seul et dès que t'es triste.
Histoire d'amitié, LSD, la série documentaire, de lundi à jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
Et à 6h57 sur France Culture, c'est l'heure des matins et nous retrouvons Guillaume Erner, bonjour.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à tous.
Alors avec aujourd'hui un plaidoyer pour l'autorité, puisqu'un président en France, c'est être un être doté de capacités exceptionnelles.
Et oui, jadis, on vantait De Gaulle capable d'assister en plein hiver à une cérémonie sans manteau, et tant pis si au fond ça n'avait absolument aucune importance sur ses capacités à bien gouverner la France. Puis on a eu d'autres présidents, ils étaient toujours aussi... Endurant Chirac, capable de rester des heures au salon de l'agriculture, il serait bien resté des jours si le salon ne fermait pas. Emmanuel Macron, une sorte de héros, on s'extasiait même sur ses capacités de skieur, souvenez-vous, jusqu'à l'avalanche des gilets jaunes. Mais aujourd'hui, du coup, le voici contraint de remonter la pente sans télésiège, notamment au travers du grand débat. Et le symbole de ses prouesses physiques désormais, c'est son aptitude à parler, à écouter pendant des heures, 7 heures devant les maires un jour, 6 heures, un autre moment. C'est principalement cela qu'on retient de ce dialogue. Un président capable de tenir longtemps, de réaliser une performance, rester debout sans veste, écouter, même répondre, et réciproquement un effort absolu. Et l'on oublie qu'il y a quelques mois à peine, il refusait de parler à tout corps intermédiaire, maire, élu local, élu tout court, le peuple ou rien, c'était sa devise. Alors Paul Valéry disait, le fond est une forme impure, et justement ce que l'on met en valeur chez Emmanuel Macron, c'est la forme, sa capacité à demeurer 7 heures à parler, à débattre, peu importe le fond, peu importe ce qu'il dit, plus personne d'ailleurs ne s'en souvient. Ce qui compte, c'est sa présence face au maire, un signe de contrition, comme si un blasphémateur était contraint d'assister à plusieurs messes. Voici le réputé méprisant condamné à entendre et à répondre. Le président ne préside plus, il doit répondre. Jadis, un anthropologue, Fraser, il s'appelait Fraser cet anthropologue, expliquait que la charge de roi était une tâche écrasante, menant quasiment toujours son titulaire à l'échafaud. Et bien aujourd'hui, cet échafaud est devenu symbolique. La peine à laquelle est condamné Emmanuel Macron est lourde. Il s'agit d'un dialogue perpétuel.